Chapitre 7. Je vous écoute. La jeune femme me souriait. Elle était vêtue d'une blouse blanche de laboratoire. Elle tenait un long crayon de papier entre son pouce et son index gauche, qu'elle faisait danser pour donner l'illusion qu'il s'amollissait comme un brin de guimauve. Je tentais de mettre un peu d'ordre dans ma quête confuse, lui résumer mes interrogations et les réponses décevantes, conventionnelles, que j'avais eues jusqu'alors de la part de ses collègues, qui abordaient sans doute le problème d'une manière trop rationnelle. « Ce qui m'intéresse, lui dis-je, ce ne sont pas les causes physiques qui favorisent l'apparition et la progression d'une maladie grave, mais les circonstances dans lesquelles elle survient et pourquoi pas aussi sa programmation. Mes questions sont moins médicales que philosophique. J'essayais de marquer mon visage d'un sourire ironique lorsque j'employais ce mot, pour ne pas le charger d'un trop grand sérieux. J'ai toujours eu tendance à trouver étrange qu'on considère le corps comme un élément détaché de celui qui l'habite, et que la médecine s'intéresse globalement à lui comme à une machine, se déchargeant sur d'autres sciences, regardée d'ailleurs d'un air un peu suspicieux, quand il s'agit de comprendre les difficultés et les troubles de l'esprit ou l'impact de l'environnement dans lequel grandit, vit, évolue l'individu. Le concept de somatisation est un outil simpliste et pratique, mais il n'éclaire que grossièrement les mécanismes que je pressens et qui me paraissent beaucoup plus complexes. Mais si j'exprime différemment ce qui m'occupe, je dirais que je cherche à réfléchir sur la part que la mort occupe dans notre vie, comment nous l'intégrons à nos jours, à nos activités de vivant, à nos amours, à notre travail, et comme nous œuvrons avec ou contre elle. Je me demande, à ce propos, si la maladie, quand elle nous frappe, peut être considérée comme une porte que nous lui ouvrons intentionnellement ou non. En d'autres termes, est-il envisageable que nous tombions malades lorsque nous acceptons de laisser prendre une place de plus en plus grande à la mort, que nous l'invitions en quelque sorte à nous envahir, à s'installer en nous, alors qu'auparavant nous avions tout fait pour la circonscrire au-delà d'un périmètre qui nous paraissait être le seul champ possible de notre existence. Évidemment, je ne suis pas un scientifique comme vous l'êtes. Je réfléchis en cinéaste. Je n'attends aucune vérité. Ce qui m'intéresse au final, c'est de pouvoir, un jour ou l'autre, transposer mes interrogations et peut-être quelques éléments de réponse dans des images. La jeune femme laissa passer un instant. Elle me regardait, jouant toujours avec son crayon. J'aimais beaucoup ce parfum d'orange qui s'échappait de ses lèvres, à chacune de ses expirations. Je l'associais à un certain bonheur, une arrière-saison. Cette arrière-saison amalfitaine durant laquelle rien d'extraordinaire ne m'était arrivé, mais où tout me paraissait avoir atteint un équilibre dans ma vie. Un moment dont la durée fut réduite à quelques semaines et dont je me demandais parfois s'il n'avait pas été le point culminant quant à l'équilibre dont je parle, celui des émotions, des désirs, des contrariétés, des renoncements, des rêves, de leur réalisation, de mon existence. Vous êtes-vous déjà demandé qui était pour vous votre corps? Je venais juste de remarquer qu'elle parlait avec un très léger accent, adoucissant les R, atténuant un peu les E, qui pouvaient la rattacher à un pays moyen-oriental, tout aussi bien qu'à une contrée d'Europe centrale. Si vous aviez à parler de votre corps comme d'une personne, que diriez-vous? Comment le présenteriez-vous à autrui? Je ne vous demande pas de répondre maintenant à cette question, mais de la considérer. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes de votre relation avec votre corps, mais le fait que vous parliez de la mort comme vous le faites me donne à penser que vous commencez sans doute à vous défier de lui. Vous entrez dans la phase que je nomme le corps inamical. Pendant des années, vous avez vécu avec lui, en parfaite osmose, dans un équilibre qui vous satisfaisait. Vous l'entreteniez du mieux que vous pouviez, et il vous procurait en échange ce que vous attendiez de lui au moment où vous l'attendiez. Performance physique, amoureuse, plaisir alimentaire, sensation. Les maladies bénignes qui, de temps à autre, l'affectaient ne remettaient pas en cause la confiance que vous placiez en lui. Elles agissaient au contraire comme des marqueurs inversés qui vous faisaient plus encore apprécier les moments majoritaires où il était votre allié. Puis le temps a lentement érodé votre partenaire. Vous avez senti peu à peu sa présence, je veux dire sa marque, son usure, son défaut à vous suivre. Est apparu alors un sentiment amer de dissociation, comme dans le cadre d'une relation amoureuse qui, après avoir été idyllique, se dégrade. On finit par oublier les qualités de l'autre pour ne voir que ce qui nous agace. Cela peut d'ailleurs mener à une certaine forme de cruauté. Le partenaire mécontent s'en prend à son conjoint, le harcèle, le fait souffrir, va jusqu'à le maltraiter. Combien cette attitude est-elle commune aussi chez ceux qui ont le sentiment d'être trahis par leur corps et lui font alors subir ce qui accentuera encore la mauvaise image et l'usage pathogène qu'ils ont de lui. J'écoutais la jeune femme. Ses paroles rencontraient en moi un écho profond. Il me semblait qu'elle exprimait de façon très claire des faits essentiels et évidents que je n'avais jamais lus ni entendus auparavant. Je restais près de 2 heures dans le minuscule bureau au senteur de livres et d'oranges à l'écouter m'expliquer ses recherches qui la plaçaient dans une position suspecte aux yeux de l'orthodoxie universitaire puisque après avoir fait sa médecine et son internat en psychiatrie, elle avait orienté son parcours vers l'anthropologie comportementale ainsi que la psychopathologie. Son travail naissait à la confluence de ces différents savoirs. Nos premières années se passent dans la découverte d'un partenaire imposé que nous apprenons à maîtriser et dont le développement, tour à tour, nous fascine et nous effraie. L'enfant commence à se dresser sur ses jambes, à saisir des objets, à guider ses gestes de plus en plus finement. Le corps est en quelque sorte un outil brut qui se métamorphose de moi en moi et dont l'enfant explore les possibilités. Très vite, il devient un corps compagnon qui prend ses pleines mesures et justifications dans le cadre d'activités la plupart du temps ludiques. Je ne parle pas de l'apparence du corps, de son aspect esthétique, qui peut se révéler, selon les individus, mais un peu plus tard, au moment de l'adolescence, comme un frein ou bien au contraire un moteur dans la relation que le sujet pensant noue avec son enveloppe. Quoi qu'il en soit, sitôt achevées les phases de croissance, le corps se fait oublier. Il est là, en parfait état de fonctionnement, obéissant à celui qui l'occupe et ne s'opposant jamais à lui. Je laisse de côté les atteintes sévères qui peuvent l'affecter. Ce n'est pas l'objet de mes recherches. Il est certain que ce que je décris ne peut convenir au corps incarné de façon évidente comme obstacle. L'obésité, l'anorexie, le handicap, des cancers précoces le désignent d'emblée comme hostile, anticipant de plusieurs décennies la relation que chaque individu, un jour ou l'autre, entretiendra avec lui. Heureusement, dans la population, ces cas sont minoritaires, et je m'intéresse à la norme. Disons qu'à partir du moment où le sujet atteint l'âge adulte et pendant une 20aine d'années, il vit avec et dans un corps amical. Je vous ai décrit cette relation il y a quelques instants. L'homme oublie son corps, car celui-ci jamais ne le gêne. Au contraire, il lui offre l'étendue de ses possibilités et leur parfaite maîtrise que l'expérience et la connaissance de soi permettent d'acquérir. C'est un allié indéfectible et l'équilibre de cette relation donne l'illusion qu'elle pourrait durer toujours. Or, le temps est là, tapis en maints endroits, aussi bien dans la fleur du péché qui se fane que dans la peau qui se fripe, dans l'articulation qui se grippe, le cheveu qui blanchit. Mais la métamorphose qui atteint la fleur du péché, la conduisant à devenir un fruit au terme de quelques mois, ne touche pas notre corps et ne délivre donc aucune promesse. Chaque modification qui l'affecte, passé un certain âge, conduit à une perte de performance et à une dégradation que rien ne peut inverser. C'est pourquoi les premiers signes qui indiquent soudain que notre corps s'inscrit dans ce processus sont perçus par bien des sujets comme les marques d'une trahison. On a beau l'avoir soigné, lui avoir offert les meilleures conditions d'existence grâce à une alimentation choisie, au sport, à une bonne hygiène de vie, il témoigne d'une reconnaissance limitée, puisque quoi qu'on ait fait, il agit désormais contre le sujet, ne tenant aucun compte de sa volonté ni de ses aspirations. Son ingratitude nous affecte. Corps hostile, puis inamical, souffrant, ennemi et enfin perdu. Les étapes s'enchaînent inexorablement jusqu'à la mort. Elles attestent toutes de la suprématie que le corps chutant, prend sur l'esprit. On peut toujours se rassurer, comme bien des civilisations l'ont fait en proclamant le vieillard comme étant l'individu le plus sage de la société. Cela n'empêche que sa supposée sagesse se heurte aux limites d'un corps dysfonctionnel, lui offrant plus de peine que de joie, plus d'amertume que de jouissance. L'homme n'est homme apaisé que pendant une vingtaine, disons maintenant une trentaine d'années. Avant et surtout après, il lutte. Aujourd'hui, nous avons mis en place des protocoles de tricherie qui tentent d'abuser autrui et nous-mêmes. La chirurgie et la cosmétique travaillent sur la restauration d'une relation heureuse entre le corps et le sujet, quand bien même le premier a déjà atteint les phases d'hostilité, voire d'inimitié et de souffrance que j'ai évoquées. Il s'agit de fonder une illusion pour l'esprit par le biais de leurs extérieurs. Mais leur action est forcément limitée, car elle n'agit pas sur la perception intérieure du corps, qui, elle, suit le temps cruel des horloges biologiques. Disons que de nos jours, on cherche à tout prix à mourir beau. Cela ne nous empêche pas de mourir souffrant et amer. Est-ce que cela fait de nous des êtres moins malheureux? Je n'en suis pas certaine. C'est sans doute même le contraire qui se produit. En contrariant les phases de la relation naturelle que nous devrions avoir avec notre corps, nous augmentons notre ressentiment vis-à-vis de lui ainsi que notre propre souffrance. Elle cessa de jouer avec son crayon de papier, le glissa entre ses lèvres et prit dans ses mains ses longs cheveux qu'elle regroupa en les roulant pour les assembler en une sorte de colimaçon qu'elle déposa sur le dessus de sa tête et dans lequel elle ficha le crayon, ce qui lui donna soudain l'allure d'une déesse barbare. Le geste qu'elle venait de faire m'ouvrit définitivement les yeux. Ma voisine du sixième étage, dès qu'elle s'allongeait sur son lit, modifiait ainsi sa coiffure, de cette façon aussi libre et rapide, dans laquelle, sous les manières de l'adulte, on reconnaît encore l'enfant, son innocence, son indifférence à ce que les autres pourraient penser de lui.